24 mars 2018, les classes de terminale S1 et ES se sont rendues au club de la presse à Strasbourg pour un débat autour de la question « À quoi sert un journaliste ?». Deux journalistes étaient là pour présenter différents aspects de leur métier. Des extraits de la rencontre ont été enregistrés. Premier extrait, connaître l'orientation politique des journaux.
Ça, c'est quoi? C'est quel journal, celui-là? Alors, plus que gauche, c'est Minus, c'est communiste. D'accord? C'est le journal officiel du Parti communiste français. C'est intéressant de voir comment l'humanité traite l'information sociale, par exemple. Et un petit peu, ça, c'est le même sujet qui est traité. Regardez la différence déjà dans la mise en page. Là, ici, il y a, allez, on va dire 40% de la une. Là, ici, vous avez 100% de la une. Et ça, le Figaro, donc, plutôt réputé comme étant un journal de droite. Voilà. Donc, là aussi, il y a des perceptions différentes. Des perceptions qui peuvent être contaminées des approches, on va dire, assez militantes, même si les informations qui sont traitées là le sont par des journalistes professionnels qui se doivent d'être honnêtes, sauf que l'interprétation qu'ils peuvent en faire, et là, on est dans ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir l'environnement, la cure, l'éducation, etc., l'interprétation qu'ils peuvent en faire, évidemment, n'est pas du tout la même que celle qu'en fera le Figaro, qui est réputé être plus de droite. Puis, vous avez des journaux qui sont plutôt centre, comme Le Monde, un journal un petit peu plus généraliste, sans parler de la presse quotidienne régionale, qui touche tous les publics, l'Alsace, les dernières nouvelles, on vous les fera passer. Eux, ils n'ont pas la possibilité d'être orientés d'un côté ou de l'autre, parce que, précisément, ils touchent tout le spectre de la population, quelles que soient les tendances politiques, sociales, religieuses, culturelles, philosophiques, etc. Donc, il y a la nécessité de faire la part des choses. Ouais. Allez-y.
Je vais pas encore vous contredire, parce que, avant, vous disiez que vous deviez rendre compte des faits tels qu'ils sont vraiment. Mais là, vous êtes en train de dire que, selon le magazine ou selon un éditorial, c'est différent. Enfin, c'est rapporté différemment.
Oui. On va parler du même fait. On va décrire, par exemple, la mise en examen de Nicolas Sarkozy. En fait, il y a des faits qui sont toujours les mêmes. Il a été placé en garde à vue, il est rentré chez les amis. À la fin, il a été mis en examen pour différentes rencontres, différentes investigations, en attendant que le Figaro, alors j'ai pas lu leur article sur la mise en examen de Sarkozy, mais j'en ai entendu parler à la radio, du coup, ils défendent Sarkozy. En expliquant en quoi c'est problématique dans la ville, qui partent de ces faits, détruisent ces faits, les mêmes faits. Ils vont interroger les personnes, les différents acteurs du dossier. Donc, il va y avoir la défense de Nicolas Sarkozy, il va y avoir l'accusation, il va y avoir par exemple Mediapart qui avait sorti l'affaire Vienne. Il va y avoir différents spécialistes, droit, juristes, financement de campagne, etc. Tout le monde va un petit peu partir sur cette. Ils vont, tout en restant justement sur ces détails, vont par exemple, pas davantage, mais ils vont peut-être souligner justement ce que dit la défense, ou le mettre en avant dans l'article. Parce qu'en fait, un article, on n'écrit pas dans l'ordre chronologique des autres en des gens. En fait, on le structure. On va prendre les avis des uns et des autres, on va faire cohérent et lisible, plus incisible. Et donc, par exemple, alors là, ce n'est qu'une supposition, parce que moi, je n'ai pas lu leur article. Mais ils vont, par exemple, pouvoir mettre en premier, plus en avant, peut-être de manière plus longue, ce qui, à leurs yeux, est plus important, à savoir la défense de Nicolas Sarkozy. À l'inverse, Libération et l'Humanité, qui sont de gauche, ou même Mediapart, hier, du coup, il y a un peu, enfin, pas jugé parti, parce qu'il n'est pas juge, mais qui est partie prenante. J'ai vu hier soir, j'ai reçu une alerte de Mediapart qui traite les mensonges de Sarkozy. Donc eux, ils ont repris l'interview télévisée sur TF1 de Nicolas Sarkozy, qui montrait des documents en disant, vous voyez, là, il est marqué que ce que disait Mediapart, c'est faux, etc. En fait, eux, ils partent de ces faits-là et vont le retourner avec d'autres informations, d'autres sources, pour expliquer les choses selon, finalement, leur biais. Mais on part toujours du même fait, la même réalité.
Ce que veut dire Bénédicte, c'est qu'on ne travestit pas les faits. Ça, c'est une base du journalisme professionnel sérieux.
Sinon, ça, c'est pas un mensonge.
Il Il y a aussi des brebis galeuses hein, dans notre milieu, bien évidemment. Mais si on part du principe qu'on respecte la charte des journalistes, très clairement, les faits sont les mêmes pour chacun des journaux, pour chacune des télévisions ou chacune des radios. Mais ensuite, la mise en valeur de tel élément par rapport à tel autre fera la différence. Et Bénédicte l'a très bien expliqué en disant que le Figaro va parler des mensonges de Mediapart, et puis voilà, l'Humanité ou Libération va parler des mensonges de Sarkozy. Mais le fond, lui, reste le même. Après, vous devez, vous, lecteur, lire les journaux en ayant à l'esprit que l'IB est plutôt de gauche, que l'Humanité est communiste, que le Figaro est plutôt de droite, etc., etc. Vous devez avoir ça en tête de façon à relativiser l'approche de chacun de ces journaux. Mais le fond, lui...
Donc tout dépend aussi justement du récepteur de l'article ou du reportage. Il va, par rapport à ses propres connaissances du sujet, par rapport à ses autres, avoir tel ressenti justement à la lecture ou...
Alors on va essayer de se taire un petit peu tous les deux là, puis on aimerait bien vous écouter, c'est-à-dire qu'on aimerait bien que vous nous posiez des questions. On aimerait bien que vous réagissiez, savoir par exemple ce que vous pensez des journalistes. Ça peut être intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, quand on entend Marine Le Pen, Mélenchon, Trump, Poutine, Erdogan, etc., les journalistes, c'est tous des escrocs, c'est tous des menteurs, c'est tous des voleurs, c'est tous des salopards, c'est tous des... etc., etc. Aujourd'hui, on parle du pouvoir médiatique, de la bronca médiatique, de tout ce que l'on veut. Est-ce que vous ressentez ça comme ça aussi? Vous avez le droit, hein. Mais si vous le dites, il faut argumenter. Il y a plusieurs parties prenantes. Il y a bien sûr d'un côté le journaliste, et de l'autre côté, il y a un certain nombre d'acteurs de cette information. Si le journaliste... n'est pas honnête, je reprends ce terme d'honnêteté, hein, n'est pas honnête avec ses interlocuteurs. Ses interlocuteurs vont le rencontrer une fois, mais pas deux. Donc, quelque part, il y a un équilibre naturel qui se fait entre les deux parties. Il faut être conscient de ça aussi. Si un interlocuteur vous dit, je ne sais pas moi, en économie, une info sociale quelconque en disant, écoutez, je vous le dis pour que vous connaissiez le contexte, mais je vous demande de ne pas en parler. C'est ce qu'on appelle des informations off. Si le journaliste rompt ce pacte off, il aura une fois un rapport avec cette personne, et puis après c'est fini. Donc, on n'a aucun intérêt, nous, à travestir la vérité, parce que ce sont autant de sources qui vont disparaître. On a besoin des sources pour travailler, bien évidemment.
Deuxième extrait. Avoir l'esprit critique et la position des journalistes face au buzz et aux pressions.
Puisque vous parlez de chercher la petite bête, on peut appeler ça noblement faire de l'investigation. C'est notre métier, c'est l'essence même de notre métier d'aller chercher de l'information. Mais il peut y avoir aussi ce que nous appelons aujourd'hui faire le buzz. Et c'est vrai que dans une société ultra-médiatisée, ultra-communicante comme celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il y a une course au scoop, il y a une course à la meilleure info, à la dernière info, etc., etc., qui parfois fait oublier aux journalistes les bases de leur métier. Ça aussi, il faut qu'on soit critique vis-à-vis de notre profession globalement. Ça arrive, et vous avez raison. Ça, c'est chercher la petite bête au sens négatif du terme. C'est-à-dire d'aller sortir ce que beaucoup de gens appellent être des fous de merde. On nous traite de cela, parfois, être des fous de merde. Pardon pour l'expression, mais elle existe. Là, effectivement, quand c'est chercher l'info pour faire le buzz, quitte à ne pas vérifier, à transformer, là, on n'est plus dans le journal. On est dans une espèce de surenchère. Il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est normal, c'est une époque que les moins de 20 ans ne doivent pas connaître, qui s'appelle Pierre Desgros, qui a inventé le magazine d'information avec un magazine qui a été diffusé dans les années 50, 60, qui s'appelait 5 colonnes à la une, qui disait, pourtant c'est un homme qui était reconnu, dans la profession qui disait une information, une mauvaise information, ou une information tronquée, c'est pas grave. Le lendemain, ça fera une autre information puisqu'il va falloir qu'on corrige cette information. C'est pas vraiment mon idée du métier. On ne diffuse que quand on est sûr du fondement, de la véracité de l'information. Pas avant. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société à très forte concurrence et que parfois, il y a des débordements. Très clairement, c'est pas franchement le journalisme que j'aime, moi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? À part les profs, n'ayez pas peur. Si vous avez envie de dire quelque chose, ou si vous avez envie de faire, ou si vous avez une impression sur le métier, sur la façon dont on l'exerce, surtout, n'hésitez pas. On est là pour ça. Allez.
Ouais. Vous avez parlé de la mise en valeur, vous avez dit que les faits étaient les mêmes, c'est qu'après il y a une mise en valeur dans les disciplines. Est-ce qu'il y a pas aussi souvent une interprétation des disciplines ?
Il peut y avoir une interprétation, mais à ce moment-là, c'est vous, lecteur, qui savez dans quel journal vous lisez cette information. Il est clair que si on prend, je reprends l'exemple de tout à l'heure, si on prend l'humanité, la façon d'aborder les cheminots aujourd'hui, ou l'éducation nationale, ou d'autres secteurs qui ont été en grève hier, il est clair qu'aujourd'hui, l'humanité va traiter ça sous la forme le gouvernement d'Edouard Philippe, de Macron, veulent casser le service public, veulent tuer les fonctionnaires, veulent etc., etc., si vous voulez, clairement. Alors que d'autres vont avoir une vision moins militante des choses en partant toujours de la même info. Hein. Ils vont analyser les raisons pour lesquelles Macron fait ça, pour lesquelles la CGT fait ça. Donc on aura une analyse plus nuancée, plus balancée, selon l'endroit où on se trouve. Et du côté de Macron, du Figaro, on va avoir une autre approche, encore une fois. On va peut-être plutôt insister sur les privilèges des fonctionnaires, sur l'emploi, etc. Ce que ne va évidemment pas évoquer l'humanité. Donc c'est à vous de faire la part des choses aussi. Il faut que le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur ait un esprit critique. Ensuite, on vous donne quelque chose et vous, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez en faire ce qu'on appelle le feedback, vous avez un retour. C'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter entre vous, entre camarades, dans votre famille. Vous allez avoir des approches différentes. Mais vous aurez lu Dumas, vous aurez lu Le Figaro, vous aurez écouté TF1, qui est plutôt qualifié de chaîne de droite, plutôt... France 3, qui est un peu plus à gauche, machin, et vous regardez tout ça, mais vous savez, vous vous étonnez de quelque chose qui existe depuis toujours, et qui est affiché à 5 km d'ici, de l'autre côté du Rhin. Vous avez des chaînes de télévision qui s'affichent clairement, plutôt SPD, donc social-démocrate, plutôt CDU, donc plutôt chrétien-démocrate à droite, etc. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est la démocratie, c'est la diversité des sources, c'est la diversité des supports. Et à partir de là, chacun d'entre nous doit faire la part des choses. C'est comme ça qu'il faut envisager. Et non pas de se dire, le journaliste est là pour travestir la vérité. Non, il l'aborde différemment selon ses sensibilités et selon le journal pour lequel il travaille.
Encore une fois, il y a des acteurs de ce journal. Imaginez qu'il y ait juste une façon de parler de l'actualité, juste une voix. Mis à part quelques très rares personnes qui seraient exactement sur la même longueur d'onde, tout le reste de la population, en France comme dans le monde, hein, si on avait la même situation, on va se dire, bon, bah, on ne pas de moins, mes opinions, elles sont faites nulle part. Enfin, voilà, donc, clairement, il faut autant de pluralité qu'on a de pluralité au sein de la population, des gens. Alors, on n'aura pas un journal par personne, par individu, mais bon, l'idée, c'est quand même de réfléchir un petit peu tous les ventailles.
Essayez simplement de faire la différence entre ce que nous vivons en France, avec la liberté que nous avons en France, de nous exprimer dans différents supports, et ce qui se passe en ce moment en Chine, ce qui se passe en ce moment en Russie, ce qui se passe en ce moment en Turquie, etc., etc. Il y a d'autres pays encore comme cela. Faites simplement cette différence-là. Dites-vous que ce que nous sommes en train de faire là, on aurait peut-être un petit peu de mal à le faire dans d'autres pays. Parce que nous n'aurions pas forcément la diversité de journalistes ici. On n'aurait peut-être qu'un seul journaliste inscrit au Parti communiste chinois, ou un seul journaliste porte-parole d'Erdogan, ou un seul journaliste ami avec Poutine. Essayez simplement de penser à ça. Donc, il faut aussi arriver à relativiser. On peut adresser toutes les critiques qu'on peut aux journalistes, et vous avez parfaitement le droit de le faire, mais on est dans un pays démocratique où on a la possibilité de cette pluralité. Ça, c'est une richesse extraordinaire. Quoi. Vous pouvez chacun vous faire votre question encore. Oui. Ah, vous m'excuserez, je vous ai expliqué que j'étais vieux, donc je suis un peu sourd aussi. Voilà, c'est normal. Bien sûr qu'il y en a. Évidemment qu'il y en a. Il ne faut pas... faut pas le cacher. D'abord, je veux dire, nous deux, là, nous pratiquons parfois aussi, mais pour des raisons qu'on peut argumenter, une forme d'autocensure. Ça nous arrive, parce qu'on se dit, là, cette info, elle n'est pas très catholique, on la comprend pas très bien, on a du mal. Donc, on va la mettre de côté parce que c'est une forme d'autocensure quelque part, mais parce que, professionnellement, on estime que ça n'est pas crédible.
Par exemple, quand tu parlais de diffamation tout à l'heure, on ne sait pas si vous voyez tout ce que c'est la diffamation. Voilà.
C'est de véhiculer une fausse information.
Bah, par exemple, on a... Alors, juridiquement, c'est ça, mais par exemple, il peut y avoir des plaintes pour diffamation de personnes qui sont visées par cette déclaration. Et donc, par exemple, si on a, on a une grosse entreprise, on va avoir un militant de défense de l'environnement qui va dire que cette entreprise, elle fait des rejets toxiques, par exemple, dans le Rhin. Elle rejette des produits chimiques dans le Rhin, ça ne va pas. Si on diffuse l'information telle qu'elle, le militant, par exemple, j'ai le militant écolo, je dis que, attention, l'entreprise, je sais pas, club de la presse, rejette des polluants chimiques dans le Rhin. Mais ça, telle qu'elle, on n'interroge pas l'entreprise de la presse. On va être sûr que 3 jours plus tard, elle va aller au tribunal. En disant, il est dans son journal a cité Gilles Militant et Coulon qui dit que moi je rejette des polluants. Je ne vais pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais je n'ai même pas été interrogée pour qu'on ait mon avis. Deuxième cas de figure, Gilles me dit la presse de la presse qui rejette des polluants toxiques dans le Rhin. J'interviewe la directrice du club de la presse qui me dit circulez, il n'y a rien à voir, ou fait rien, ou alors je refuse de vous répondre. Je marque dans mon article. Le club de la presse indique de rien rejeter dans le Rhin, voire le club de la presse ne veut pas répondre à mes questions, alors l'entreprise peut toujours dire attention, c'est faux et elle est au tribunal. Mais elle a un peu moins de chances de gagner parce que moi j'ai fait mon travail en allant chercher son avis sur le sujet en disant bon bah vous êtes accusé d'eux, je veux avoir votre avis sur la. Qu'est-ce que vous pensez de ces accusations? Alors soit vous dites oui, je suis d'accord, c'est probable, soit vous démontrez par A plus B que non, c'est pas vrai, soit vous refusez de répondre. Et même mentionner que la personne a refusé de répondre pour dire on a fait le travail, on est allé chercher l'information. Ça, c'est par rapport à la diffamation. Donc, ce que disait Gilles par rapport à l'autocensure, parfois on va se dire, il y a Gilles, machin, militant écolo qui dit qu'il y a des rejets de polluants. J'arrive pas à avoir confirmation, information, non réponse de l'entreprise incriminée, on disait plutôt. Ou alors, même ce que dit Gilles, ça me paraît un peu bizarre. Je lui demande, mais sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour affirmer ça? Il est incapable de me répondre, il me dit il y a ma chinette qui me l'a dit, mais j'arrive pas à voir ma chinette au téléphone. Dans ce cas-là, je peux me dire que c'est un peu dangereux parce que j'ai un semblant d'information impossible vraiment à sourcer au niveau de Gilles. Sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour le dire? Parce que même l'interlocuteur, quand il nous annonce des chiffres, des faits, il nous dit qu'un tel a fait ci ou ça, généralement on lui demande mais sur quoi est-ce qu'on vous appuie pour nous dire vous-même qu'ils sont vos sources par rapport à ça. Même nous, après on puisse aller chercher derrière, aller recontacter là, relire ces rapports-là, pour dire à lui effectivement il avait bien compris le truc, il m'a bien retranscrit ce qu'il fallait comme il fallait. Donc si on se dit bon bah j'arrive pas vraiment à valider le truc, c'est un petit peu fragile, en notre cas-là peut-être que je vais pas le mettre dans mon article, parce que je suis pas vraiment sûre que ce soit vraiment une information. Alors peut-être que c'en est une, peut-être qu'il a raison, et peut-être que je manque de dénoncer un grand scandale de pollution, mais peut-être aussi qu'il me raconte n'importe quoi, peut-être juste parce qu'il s'est planté, ça arrive, et dans ce cas-là, bah, je passe justement à côté d'un procès où je perdrais parce que j'aurais pas fait mon travail correctement. Je ne sais pas si c'est très très clair comme réponse.
Alors, il y a un autre aspect. Non. Alors, si, mais cet aspect-là, bon, c'est effectivement faire attention à nos interlocuteurs, à la crédibilité de ces interlocuteurs, etc. Si on n'est pas sûr, on peut considérer ça comme une forme d'autocensure. Et puis, il y a aussi, et ça c'est une réalité aujourd'hui dans le monde que nous vivons, il y a des pressions politiques, il y a des pressions économiques. Je vous cite un exemple. Alors ça, c'est pas Gilles Écolo, machin, et le club de la presse, machin. C'est une réalité. Il y a de ça quelques semaines, il était prévu la diffusion d'un magazine sur le Crédit Mutuel, sur Canal+, contrôlé par Bolloré, Vincent Bolloré. Ce magazine n'a pas été diffusé par la chaîne parce que le Crédit Mutuel est un des plus gros annonceurs de cette chaîne. Et donc, les producteurs de ce magazine n'ont pas pu le diffuser, comme c'était d'origine, sur ce Canal+ en question. C'est finalement France 3, merci le service public, c'est pas mal, on se fait plaisir de temps en temps, se faire plaisir. Donc c'est le service public et France 3 qui l'a diffusé. Ça c'est une réalité aussi. Aujourd'hui, quand vous voyez la composition, j'oublie le service public, évidemment, qui est à 100% capitaux d'État. Mais pour les autres, tous ont des intérêts économiques réels, parce qu'ils appartiennent à des groupes. Je parlais de Vincent Bolloré, mais on peut parler de Drahi, de Nils, de... d'un certain nombre d'industriels, d'opérateurs de téléphonie, etc., qui sont propriétaires du Crédit Mutuel et propriétaires d'un groupe qui s'appelle EBRA. Vous avez les dernières nouvelles et l'Alsace qui appartiennent à ce groupe, l'Est républicain, le républicain lorrain. Vous avez une quarantaine de titres, je crois, à peu près, dans ce groupe qui s'appelle EBRA et qui est contrôlé par le Crédit Mutuel. Vous pouvez imaginer que si on découvre une malversation quelconque de la direction du Crédit Mutuel, ces journaux vont avoir un petit peu de mal à traiter cette information, pour être réaliste. Hein. Ensuite, bien sûr qu'il y a des pressions politiques. Là, je ne parle plus de censure, hein. Sauf pour Bolloré, effectivement, là, c'est une forme de censure. Mais il y a eu d'autres exemples, hein. Par le passé. Des pressions politiques, ça existe aussi, bien sûr. Ça fait partie de la vie des journalistes. Des pressions économiques, politiques, religieuses, tout ce que vous voulez, ça fait partie de notre vie. C'est normal qu'il y ait des pressions. C'est tout à fait évident. Après, nous, notre capacité, c'est de résister à ces pressions, d'écouter les gens, d'écouter ce qu'ils racontent, et ensuite de faire notre travail de journaliste. Mais pas simplement de dire, ouh là là, pas taper. C'est pas ça la question. La question, c'est de se dire, ce type-là veut faire pression sur nous, il veut nous raconter telle chose, cette fille-là veut faire pression sur nous, etc., etc. Pourquoi cette pression? Pourquoi ces attitudes-là? Et à partir de là, on peut construire, on peut faire notre métier de journaliste. Il n'y a aucun problème. Vous savez, je me rappelle d'une chose quand j'étais à la rédaction européenne, on parlait d'une directive européenne qui s'appelle REACH, c'est une directive qui traite de la problématique des produits toxiques dans les produits manufacturés, avec l'obligation faite aux entreprises de déclarer de façon très détaillée tous les produits toxiques possible et imaginable qui entre dans les produits manufacturés. Cette directive elle est en discussion au Parlement européen à Strasbourg. Je n'ai jamais rencontré autant de PDG d'entreprises internationales, Hoechst, Bayer, Monsanto, enfin tout ce que vous voulez. On pouvait avoir tous les PDG que l'on voulait en interview, quoi, parce que vous aviez des lobbies qui ne voulaient pas entendre parler de cette directive européenne, qui est pas mal passé finalement, hein, et qui faisait pression sur les journalistes. C'est tout à fait normal, ça fait partie de notre vie. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, à nous de résister, bien évidemment.
Troisième extrait. Peut-on cacher une information?
Les lanceurs d'alerte, etc., bref, Wikileaks, enfin, bref, toutes ces choses-là, vous rendez bien compte que si un journal ou un média ne sort pas une info, et si tous les autres sortent cette info parce qu'il y a la pluralité justement, celui qui ne va pas la sortir, sa crédibilité va quand même en prendre un coup.
Tous les journaux ne sont pas tenus par la même personne.
Non, une très grande partie.
Il y a une très grande partie qui est tenue par plusieurs personnes différentes. Mais déjà, rien que ces plusieurs personnes différentes n'ont pas toutes les mêmes intérêts. Donc selon, quelque sorte, la famille des médias, ce ne seront pas les mêmes pressions qui s'exercent. Ce ne seront pas les mêmes sujets qui seront traînés pour tirer.
Si vous voulez, ce qui est intéressant, rappelez-vous quand même le discours que tiennent les politiques aujourd'hui, ce dont je parlais tout à l'heure, le parti médiatique, comme ils disent, casse les politiques, etc. Ces mêmes personnes, je ne parle pas simplement des leaders politiques, mais ces mêmes personnes peuvent être aussi indirectement propriétaires de ces médias. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la diversité, la pluralité des opinions, la diversité des capitalistes, si vous voulez, ceux qui détiennent ces médias, est telle que, quelque part, ne pas sortir une information devient quasiment impossible aujourd'hui. Et si même les journaux, les médias officiels, professionnels, ne peuvent pas sortir les infos avec les réseaux sociaux, avec tous les canaux d'information dont on dispose aujourd'hui, je ne parle pas de qualité, je parle de quantité, hein, c'est quasiment impossible aujourd'hui de ne pas sortir une information. Je dis c'est quasiment impossible. Je dis pas que ça, tout est possible et ouvert. Non, ça n'est pas le cas. Mais même les choses les plus du FSB, l'ancêtre du KGB russe, on parle de la CIA, des FBI, etc. Regardez la démocratie américaine. On peut discuter de Trump, on peut discuter de tout ça, mais regardez la démocratie américaine qui fait que quand il y a un doute quelque part, la Chambre des représentants, le Sénat, vont auditionner le patron du FBI, le patron de la CIA, le patron de machin, de la NSA, etc., etc. En France, c'est pareil. Les sénateurs et les députés peuvent demander à entendre le patron de la DGSE, de la DGSI, etc., etc. On est en démocratie et quelque part, ces informations-là, même si c'est à huis clos, en principe, évidemment, pour des raisons de sécurité, ces informations peuvent sortir.
On ne peut pas faire n'importe quoi.
Bah, par exemple, on prend un média civique qui n'est détenu par aucune famille, Mediapart. On ne peut pas l'accuser de ne pas sortir d'histoire. Et quand il sort des sujets, au bout, généralement, on en entend parler. Parce que même ceux qui vont être tenus par les gens qui peuvent être dénoncés vont dire « Mediapart a sorti un sujet ». Alors après, peut-être que selon la couleur du média, on va chercher plutôt à défendre la personne accusée. Pour prendre mon exemple, Nicolas Sarkozy passe en examen. À la base, enfin mise en examen. À la base, c'était une information de Mediapart. Finalement, c'est Mediapart, un média indépendant de ces grandes familles qui financent dans beaucoup d'autres journaux, qui a sorti l'information et tout le monde en parle. Et ça ne reste pas discret très longtemps, parce que si c'est une information importante qui sort, elle sera forcément reprise. Et à ce moment-là, la source sera selon Mediapart, selon tel mal, etc. Il y a telle et telle chose, et du coup, il y aura deux interlocuteurs qui viennent en plus, soit pour dire à lui Mediapart a raison, soit pour dire Mediapart a tort, mais finalement, on en parlera. Et il y aura un discours où on cherche à, les uns et les autres, justement, vont chercher le pour et le contre et la même réponse. Et l'information, on en parlera.
En fait, si vous voulez, c'est ce qui alimente Mediapart, qui alimente le canard enchaîné qui est en train de passer. On sait que ce sont des supports, des médias indépendants, qui ne dépendent ni de la pub, ni d'un quelconque capitaliste, machin, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que, par exemple, je sais pas moi, Lactalis, prenons l'histoire de Lactalis, on ne veut pas trop en parler parce qu'il n'y a aucun média qui n'a pas de page de pub sur les produits de Lactalis. Qu'est-ce qui va se passer? Éventuellement, quelqu'un de chez Lactalis, c'est un peu comme ça d'ailleurs que ça s'est passé, va passer un coup de fil ou va envoyer un petit truc anonyme, discret, etc., au canard enchaîné à Mediapart en disant « là, il y a un scandale qui est en train de se préparer, etc. » Vous auriez intérêt à, en donnant quelques indications, hein, et à partir de là, ça file. Et une fois que ces médias-là, s'ils jugent que l'information, évidemment, est crédible, hein, ils vont faire des retours, s'ils jugent que c'est crédible, ils vont diffuser, et à partir de là, tous les autres médias, même ceux qui sont sponsorisés par Lactalis ou, je sais pas, le Crédit Mutuel, vont être obligés de traiter ça. Donc, quelque part, il est quasiment impossible aujourd'hui que ça ne sorte pas. Juste une petite anecdote encore. Vous savez, à l'époque de François Mitterrand, tous les journalistes étaient au courant de sa double vie. D'un côté, Mazarine Pinjot, de l'autre côté, Daniel Mitterrand. Tout le monde le savait, mais il y avait, je dirais, une règle dans notre profession qui consistait à dire on ne va pas s'immiscer dans la vie privée. Le président de la République de Gaulle n'était pas aussi angélique qu'on peut l'imaginer non plus. Pidou, je ne parle pas de Pompidou, de Giscard, de ses virées nocturnes, bref, tout ça, on en parlait relativement peu. Parce qu'il y avait cette règle qui est... Alors, aujourd'hui, ça, c'est impossible. Il n'y a pas, hein, Hollande, Payet, et Sarkozy, et Carla Bruni, et machin, etc., etc. Ça n'est plus possible. Alors vous allez dire, c'est du people. Oui, mais d'un autre côté, ça peut avoir une influence aussi sur la vie de ces personnes qui sont aux responsabilités, sur la gestion des deniers publics. Mitterrand a financé sa double vie avec des fonds publics, d'accord? Donc, voilà, ça, ce sont des réalités. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Donc, ce que vous dites, vous avez parfaitement raison de poser la question. À mon avis, il n'y a plus de vie. Justement, parce qu'il y a une multiplication des sources d'information et parce que si on veut faire le bon, la concurrence dont je parlais tout à l'heure. D'autres questions? Qu'est-ce qu'on peut diffuser? Oui?
La censure. Alors là, c'est pas forcément en France, hein. Mais par exemple... Les médias ont quand même un impact énorme sur l'opinion publique. Hein. Et dans les pays où ils sont passés à la censure, où l'info unique voilà, canalisée, etc., est-ce que finalement, est-ce qu'on peut dire à ce jour qu'il y a des pays où l'info n'est pas aussi transparente, parce qu'il n'y a pas la diversité des sources, parce que c'est dissipé.
Bah, je vous ai cité des pays tout à l'heure, hein, la Russie, la Turquie, la Chine, un certain nombre de pays africains aussi. C'est-à-dire que, en fait, tous les pays qui n'ont pas un régime démocratique réel sont soumis à ce genre de choses. Bien sûr que ça existe partout, mais ça existe au Venezuela aussi.
Mais alors, comment les journalistes peuvent faire leur boulot? Si, c'est pas dans les idées, vous avez
dit qu'il mettait des journalistes, on démissionne. On essaie quand même de faire son boulot et on se fait assassiner comme un malade. Et là, on est dans l'Union européenne, on se fait emprisonner comme en Turquie, etc., etc. Donc, on ne va pas déifier le métier, il faut simplement être conscient qu'effectivement, il y a un certain nombre de journalistes qui prennent de véritables risques. Je ne sais plus combien de journalistes sont morts l'an dernier dans le monde, mais ça a tendance à augmenter en permanence d'année en année, si vous voulez.
C'est la même chose avec les collègues, ils essayent de faire un tiers. Mm-hmm. Pour avoir le cœur bien accroché, parce qu'on va le perdre, ils perdent la vie en faisant ce métier. Avec la famille qui est en France. C'est la même question. Une autre forme de pression, physique et directe, même si dans des pays avec l'hypertension, justement, ça peut être physique, mais mondaine, hein, parce qu'on est en prison, mais il y a des gens qui ne savent pas faire, en connaissant du risque.
J'ai connu ça en Yougoslavie, dans la guerre en Yougoslavie, où je suis arrivé, c'était à la fin du conflit, ça tirait un petit peu moins, mais ça continuait de tirer quand même. Bon, on a fait un sujet là-bas, et on prenait des risques, bien évidemment, les snipers, il y avait surtout des mines un petit peu partout, les terrains n'étaient pas forcément des millions, on pouvait prendre des risques, mais ça fait partie du notre métier, encore une fois. Je dirais qu'on ne part jamais, nulle part, sur des terrains de guerre, la fleur au fusil. Jamais. Ça n'existe. Ça a existé. Et en plus, si vous voulez, c'est tellement balisé par les belligérants aujourd'hui que très souvent, le choix est assez limité. On peut être pris en charge par telle armée, telle autre armée, tel groupe de belligérants, etc. Parce que tout seul, en vrai, des risques immenses. Mais on sait qu'on est avec un tel ou un tel, qui a tel ou tel intérêt dans le conflit, et donc on fera la part des choses aussi, bien évidemment.